précédent de notre série sur les Lumières dans la Fabrique de l'Histoire. Ce matin, l'émancipation au temps des Lumières. Après avoir écouté lundi Mélanie Traversier nous présenter le journal de la Reine de Naples au temps des Lumières, Marie-Caroline de Naples, puis hier vous avoir parlé d'utopie et au temps des Lumières, nous abordons ce matin la question de l'émancipation des Juifs et de l'abolition de l'esclavage au XVIIIe siècle. Dans la première partie de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir l'historien et sociologue Pierre Birnbaum qui publie Au Seuil, est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles, le concours de l'Académie de Metz en 1787, un ouvrage dans lequel il nous raconte les débats sur la place des Juifs dans le Royaume de France à la veille de la Révolution française. Puis en deuxième partie de cette émission, notre invité sera Olivier Grenouillot qui poursuit son travail sur l'histoire de l'esclavage avec La Révolution abolitionniste publiée chez Gallimard. Bonjour Pierre Birnbaum.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin pour le livre que vous publiez donc aux éditions du Seuil. Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux? Le concours de l'Académie de Metz, dans lequel vous allez un peu loin d'une certaine façon pour pouvoir nous présenter une figure tutélaire de la République française entrée au Panthéon, à savoir l'abbé Grégoire qui, avec huit autres personnes, a participé à ce concours en 1787, un concours lancé par la Société Royale des Arts et des Sciences de Metz et qui faisait partie, c'est ce que vous nous expliquez en introduction de ce livre, de ces nombreuses réflexions qu'il pouvait y avoir au temps des Lumières autour de la place des Juifs, pas simplement en France d'ailleurs, mais dans l'ensemble de l'Europe, que ce soit en Angleterre ou dans les pays germaniques. Cet abbé Grégoire, on a gardé son nom évidemment, puisqu'il a attaché son nom à des réformes très importantes de la Révolution française, et on a toujours effectivement abordé cet abbé Grégoire par le texte qu'il a écrit à ce moment-là, donc lors de ce concours de l'Académie de Metz. Ce que vous nous montrez, c'est qu'il n'est pas seul et qu'il a autour de lui d'autres concurrents qui sont peut-être aussi plus, je ne sais, intéressants que lui sur cette question posée par l'Académie de Metz, Pierre Birnbaum.
Alors vous avez raison, et en effet, c'est un peu le scoop du livre, c'est le fait de relire, de revoir de plus près ce travail qui a suscité pas mal de controverses depuis quelques années. Et cette redécouverte, cette relecture est facilitée par la publication pour la première fois d'un texte qu'il avait écrit auparavant, qui n'a jamais été publié, qui n'a jamais été édité, qui n'a jamais été pratiquement lu par personne, et dont tout le monde pensait, était absolument persuadé qu'il avait disparu, que personne n'avait jamais retrouvé. Et donc là, dans ce volume que j'édite, vous avez la publication de son premier document qu'il a proposé à ce concours et qui n'a pas été, en tant que tel, accepté comme définitif. Il n'a pas gagné le prix au premier tour, donc il en a écrit un autre. Et c'est le second qui est connu, c'est le second qui a suscité toutes les controverses. Et on ne voit pas, en ne connaissant pas l'existant, en n'ayant pas lu le premier texte, on ne voit pas la différence entre les deux. Mais c'est un peu dommage tout de même de ramener ce travail simplement à l'abbé Grégoire.
Bien sûr.
Parce que finalement, c'est l'abbé Grégoire ainsi que l'ensemble des personnes qui participent à ce concours qui, comme vous l'avez dit, se déroule entre 1785, 87, 88 et donc un an avant la Révolution française, est un moment absolument symbolique de ce que la Révolution française va changer. Brutalement par le haut, en remettant en question, au fond, tous ces petitesses, toutes ces étroitesses ou toutes ces difficultés à accepter la présence de l'autre en France. Et on voit bien, au fond, à travers une analyse un peu comparative, que d'autres sociétés sont plus disposées, parce qu'elles sont moins fermées, elles sont moins tournées vers leur agriculture, vers leur précaré, vers une société extrêmement organisée. Les sociétés tournées davantage vers la mer que vers la terre, vers l'économie que vers l'agriculture, sont plus ouvertes à l'ouverture aux autres. Et les lumières anglo-saxonnes n'exigent rien pour faire admettre les juifs dans la société française, dans la société anglaise, alors que les lumières à la française, et c'est une des difficultés, je trouve, un des drames, je trouve, que l'on ressent à la lecture de ces écrits, c'est de voir à quel point les philosophes français sont rétifs à admettre l'entrée des juifs dans la société française. Il y a un très beau texte de Roland Mortier, qui n'est pas juif et qui dit des choses extraordinaires. Il dit, les philosophes, donc Voltaire, Rousseau, Diderot et tous les autres, acceptent, disent, il faut absolument émanciper les Noirs, les Iroquois, les Indiens, les Chinois, les Hurons, mais pas les Juifs. Et donc, l'autre, le plus proche, l'autre qui est tout près, on a du mal à le faire rentrer dans la société.
Oui, alors ce que vous expliquez très bien dans un essai comparatiste qui est en ouverture de votre livre, Pierre Birnbaum, c'est effectivement que cette société anglaise, en particulier par la vision utilitariste du commerce comme étant donc un caractère qui permettrait justement une meilleure entrée des Juifs dans la citoyenneté anglaise de cette époque-là. Cette société anglaise est plus ouverte, mais évidemment ça fait partie des paradoxes de l'histoire. Et elle mettra beaucoup plus de temps à émanciper justement la condition des Juifs que la société française, parce que, vous l'avez dit, la rupture révolutionnaire sera telle qu'elle accélérera le rythme.
C'est tout le paradoxe de la comparaison, je trouve. Et le texte de John Toland auquel vous vous référez, « Raison pour naturaliser les Juifs en Grande-Bretagne »,
1714,
qui paraît dans le même siècle, mais c'est un texte qui n'a absolument rien à voir avec les écrits que je publie dans cet ouvrage. C'est un texte totalement ouvert. Il n'y a aucune critique du Talmud, de la religion. On n'exige rien d'eux. Ils peuvent parler yiddish, ils peuvent rester fidèles à leurs croyances, ils peuvent s'organiser dans la société. Et néanmoins, ils peuvent devenir immédiatement citoyens. Ils doivent devenir citoyens. Et au contraire, la société doit les ouvrir. Et ils peuvent remplir toutes les professions de suite, que ce soit les professions au fond de l'avocat, médecin, mais également celles du commerce. Alors que l'on va voir à quel point l'abbé Grégoire et d'autres sont prêts à certaines conditions à faciliter l'entrée des Juifs dans la société française, mais à condition qu'ils s'éloignent des professions qui les pervertissent, comme celles du commerce.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, vous prenez exemple, c'est un exemple frappant de Voltaire, qu'on prend souvent d'ailleurs en exemple sur cette question-là, et vous dites que c'est quand même très étrange, parce que il est un admirateur de l'Angleterre, vous citez un de ses beaux textes, effectivement, où il dit, au bout du compte, qu'il vaut mieux avoir un pays dans lequel il y a 30 religions qu'une seule, parce que ces 30 religions vivent en paix et heureuses. Et pourtant, ce Voltaire ne pense pas, lui, à l'émancipation des Juifs, Pierre Birnbaum.
Donc, c'est bien connu, il y a une bibliographie énorme sur Voltaire et l'antisémitisme. Il ne s'agit pas de faire de Voltaire le pape de l'antisémitisme. Mais au nom de sa propre vision totalement rationaliste et universaliste, au nom de sa lutte contre toutes les religions, d'abord le catholicisme et forcément le judaïsme, il va très loin tout de même dans la manière dont il accable les Juifs. Il utilise des expressions extrêmement péjoratives sur le fanatisme, la bêtise, la fourberie, que l'on va retrouver, pardonnez-moi de le dire, mais chez l'abbé Grégoire, on va retrouver ces mêmes termes sur les rêveries burlesques du Talmud.
C'est incroyable.
Termes reviennent, ouais. les mêmes figures. Prenons quelqu'un, non seulement comme Voltaire, mais Diderot, extrêmement violent contre les barbus, qui sont fanatiques, qui trahissent, qui volent, mais prenez un texte de Dolbach, le grand Dolbach. Nous sommes en 1752, un des papes de l'encyclopédie. Que dit Dolbach en 1952? Et ça va évoquer des débats d'aujourd'hui, en 2017, à propos d'autres minorités. Osons donc enfin, ô Europe, secoue le joug insupportable des préjugés qui t'affligent, laisse à ces Hébreux stupides, à ces frénétiques imbéciles, à des Asiatiques, on peut modifier les termes, à des Asiatiques lâches et dégradés, ces superstitions avilissantes qui ne sont point faites pour les habitants de ton climat. C'est-à-dire qu'on a Dolbach qui est au cœur de la science, au cœur du rationalisme.
Au cœur de l'encyclopédie.
Au cœur de l'encyclopédie, qui reprend au fond ces fadaises qui relèvent de préjugés qui normalement appartiennent davantage au camp de la réaction.
Alors vous vous posez évidemment avec d'autres la question de savoir pourquoi cette politique anglaise est plus ouverte à cette condition des juifs que la politique française de l'époque. Vous tentez d'y répondre en particulier par l'obsession, disons, physiocratique et de Quesnay sur l'obsession de la terre en particulier. Mais vous allez voir aussi, en bon comparatiste, un peu ailleurs dans les pays germaniques. Et là, vous réfléchissez à l'impact qu'a pu avoir, effectivement, dans le domaine germanique, le travail de Dôme, Christian Wilhelm Dôme, donc, qui en 1781 publie de la réforme politique des Juifs, qui est un livre qui est traduit dès l'année suivante
immédiatement,
en 1782. Et qui, dites-vous, dans cet espace aussi, qui est l'espace lorrain et l'espace alsacien, jouera un rôle très important dans les débats et qui peut-être sera une des racines de cette question que pose l'Académie de Metz en 1785. Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux, Pierre Birnbaum ?
Tout se noue dans les années 1780. On a à la fois la question de l'émancipation des Noirs, la publication de l'abbé Raynal, la troisième édition qui est diffusée par millions d'exemplaires. Oui. On a la question de l'intégration des protestants, des hérétiques non catholiques. En 1786, on a, 1782, on a les Noirs, les protestants, les Juifs, cette question de l'entrée de l'autre dans la société se pose exactement durant ces quelques années, mais dans des termes très différents. Et quand on prend le texte de Dôme, que vous avez cité, qui là encore est écrit à la demande de Mendelssohn, on voit à quel point Dôme ne demande rien du tout, lui non plus. Relisez-le, il n'y a pas un seul mot contre le Talmud, il n'y a pas un seul mot contre le rituel, il n'y a pas un seul mot contre le yiddish, il n'y a pas un seul mot contre le maintien d'une culture, d'un imaginaire, d'une vision, d'une fidélité. Et Dôme dit simplement, eh bien, la société allemande sera beaucoup plus riche si les Juifs peuvent rentrer, pour qu'on peut les naturaliser. Il faut les naturaliser, il faut qu'ils entrent dans la société. Alors, il va échouer, lui aussi, pour d'autres raisons. En Angleterre, ce sont les commerçants qui s'opposent à la concurrence de l'arrivée des Juifs anglais, des Juifs. Mais en Allemagne,
c'est la Prusse aristocratique.
C'est la Prusse aristocratique et chrétienne. C'est une société qui reste totalement vouée, ancré sur un socle chrétien et qui va totalement rejeter le texte de Dôme, alors que le texte de Dôme va se frayer un peu un chemin en France, il va être lu, diffusé, et nombre des personnes qui ont contribué à ce concours citent Dôme, se situent par rapport à Dôme.
Alors, j'ai découvert quelque chose, je ne connais pas bien le sujet, mais j'ai découvert que Louis XVI, dès 1783, avant la Révolution française, évidemment, prépare un édit avec Calonne, son contrôleur général des finances, un édit qui en 1784 devient perpétuel et irrévocable, dans lequel il élimine en particulier les obstacles à la circulation des Juifs et propose l'affranchissement du commerce des entraves. Donc il y a là un début d'ouverture, pourrait-on dire, qu'on ne doit pas à la Révolution française, mais qu'on doit à un prince et à la monarchie.
Il y a tout un questionnement sur est-ce que les Juifs seraient mieux, plus facilement émancipés par le roi ou par la Révolution? Et les rois savent en effet que cette question se pose. Et lorsque les protestants accèdent au droit civil, on demande à Malesherbes de s'occuper des Juifs. Louis XVI demande à Malesherbes de s'occuper des Juifs. Alors ça va pas se faire et ça ne se fera pas. Mais revenons, si vous voulez bien, au concours lui-même. On voit à quel point ces questions sont abordées avec tout de même énormément de préjugés en 85, 86, 87. Donc le concours est lancé en 1785. Les 9 candidats présentent leur manuscrit qui n'ont jamais été publiés. Et là encore, ils sont dans ce texte publiés intégralement pour la première fois, translittéralisés dans ce livre pour la première fois. Sur ces 9 candidats, le jury n'en retient que 4.
Il n'en retient même que 2, et 2 autres s'ajoutent.
C'est ça, exactement. Pardonnez-moi de ma confusion. Il n'en retient que 2, qui est l'abbé Grégoire et Thierry. Néanmoins, Donchet, qui avait proposé un manuscrit, rebelote, republie un manuscrit. Et Hurwitz, qui avait déjà candidaté et qui n'est pas retenu, en publie néanmoins, en propose un autre également. Mais quand on compare ces manuscrits, on voit que certains d'entre eux sont beaucoup plus libéraux que d'autres, que certains sont d'une violence extrême.
Alors, il faut citer quand même celui que vous avez retrouvé, qui n'avait pas été retrouvé jusqu'à maintenant, de Louis-Nicolas Haïcourt.
Qui est procureur.
Alors, voilà, il est procureur et il dit des choses comme « On ne voit qu'un seul moyen de rendre les Juifs heureux sans faire tort aux Français, ce serait de les transporter dans un pays désert, mais cependant fertile et susceptible d'une bonne culture. La vaste étendue du Canada et surtout la Louisiane serait très propre à l'exécution de ce projet si ces deux grands pays appartenaient à la France, mais les regrets à cet égard sont superflus. Il n'y a que la Guyane française où l'on pourrait et les transporter par petites divisions avec leurs familles et leurs meubles, en les embarquant sur la Moselle qui tombe dans le Rhin à Coblence et de là en Hollande où des vaisseaux de transport pourraient les prendre et les conduire à leur destination. Et il conclut, l'expulsion de cette horde judaïque serait le plus grand bonheur qu'on pourrait désirer pour le pays messin et toutes les provinces de France.
Vous avez lu très près les choses, ce texte est bouleversant. Et il annonce presque des siècles avant ce qui va se passer un peu plus tard avec le transport par la SNCF. Il prévoit exactement le transport, où on va les mettre, comment ils vont partir. C'est assez étonnant. Il n'est pas le seul. Don Chay a des textes inimaginables. Oui. Il faut leur couper le bec. Cet oiseau de proie. C'est d'une violence extrême tout de même dans. Et à chaque fois, dans tous ces textes, on voit à quel point on veut les expulser de la société française. On les renvoie au dessèchement des marais, au défrichement des terres. On veut absolument qu'ils quittent le rapport à l'argent, à la modernité, à la ville, à la civilité. Donc il y a des textes, quelques-uns des textes sont d'une violence extrême et vont marquer peut-être, annoncent peut-être ce qui va se passer au XIXe siècle, un antisémitisme relativement violent. Il y a des textes, au contraire, extraordinairement ouvert, tolérant, favorable.
Thierry, par exemple.
Celui de Pic de Père, qui est absolument incroyable. Il dit, mais ils peuvent tout de suite être français, ils doivent être français, ils peuvent exercer tous les métiers qu'ils viennent, ils peuvent être marins, pêcheurs, agriculteurs, tous les métiers. Celui de l'abbé Lalose, voilà encore un curé, comme l'abbé Grégoire. Mais ce curé-là, il est extrêmement favorable et il évoque même la Saint-Barthélemy. Il dit, il ne faut surtout pas rebêter la Saint-Barthélemy, il faut mettre en place un pluralisme religieux. Et là, nous sommes au cœur du sujet, c'est les Lumières et la question du pluralisme culturel dans le cadre de l'exceptionnalisme français.
Mais ce que vous parvenez à faire très bien, Pierre Bienvenu, c'est de nous expliquer très largement, en ouvrant la focale, cette comparaison entre pays d'Europe vis-à-vis de la condition des Juifs, mais aussi à leur resserrer cette focale sur le territoire messin. Vous nous dites combien le fait que ça soit à Metz, ça n'est pas pour rien, qu'il y a, pendant même que l'Académie a lancé son concours, des polémiques terrible. Qui se déroule à Metz avec en particulier la parution d'une brochure d'un certain Philippe de la Tour Foissac, le cri du citoyen de Metz qui dit que c'est un chancre rongeur qui dévore les Messins, que le cloaque infect de leur abjection est présent dans la ville de Metz et auquel répond le porte-parole des Juifs de Metz, qui écrit magnifiquement bien, il s'appelle Isaïe Bing. Et il dit, comme Voltaire, dit Bing à ce Philippe de la Tour Foissac, vous demandez qu'on ne nous brûle pas, mais vous mettez dans les mains des pierres pour qu'on nous lapide.
Alors, je crois qu'il serait bon d'aborder, de revenir à votre première question, qui était quid de notre abbé Grégoire.
Eh oui.
Et ce qu'apporte ce livre, je crois, c'est justement De montrer l'évolution, la transformation tout de même assez sensible du premier manuscrit qu'il propose donc et qui est en tant que tel qui n'est pas accepté et du second qui va être primé en 1788. Alors le premier n'était pas connu, le second l'était. Je propose dans ce livre une lecture relativement précise et méticuleuse de la transformation de ces deux manuscrits et aux surprises, on voit à quel point l'abbé Grégoire accentue critique contre les Juifs. On aurait pu imaginer qu'au contraire, il se libéralise. On voit à quel point il donne naissance justement à cette grande perspective qui va jouer un rôle fondamental durant la Révolution française, qui est la régénération. Mm-hmm. Le titre même de son essai porte « Essai sur la régénération », ce qui n'était pas le cas dans le premier. Le premier essai n'avait pas de titre.
Ça veut dire que si on a besoin d'être régénéré, c'est qu'on est dégénéré.
On est dégénéré. Et Hurwitz va lui dire, mais les Juifs ne sont pas dégénérés, pourquoi voulez-vous les régénérer?
Tant qu'il n'a pas été prouvé que les Juifs sont vraiment dégénérés, je ne vois point la nécessité de les régénérer, disait Hurwitz dans son deuxième texte
très
écrit
bon.
Pour l'Académie de Metz. C'est formidable.
Très bon, c'est formidable. Mais cette affaire de la régénération est essentielle, parce que non seulement la régénération est dans le titre, mais elle est dans le corps de son manuscrit, elle revient sans cesse. Or, la régénération va mener directement à la construction de l'homme nouveau. Antoine de Beck, Mona Ozouf, la manière dont la Révolution française va précisément émanciper d'un seul coup les citoyens, mais en émancipant l'ensemble des citoyens. Alors, quand on regarde le texte de l'abbé Grégoire, il introduit, pour justifier cette régénération, déjà cette référence au patois.
C'est formidable. Le fameux essai sur les patois qui a été analysé par Michel de Certeau en particulier.
Exactement.
Et cette façon
dont l'abbé Grégoire est l'auteur.
Voilà, dont l'abbé Grégoire
pendant
est l'auteur
la pendant la Révolution française.
Et là, on voit déjà que dans ce concours d'Académie
pour la première fois,
il parle de cette question du patois comme étant la langue parlée par les Juifs de Metz en particulier.
Voilà. Et donc, il s'attaque très violemment au patois à partir du yiddish, à partir de l'exemple du yiddish, ce qu'il va faire un peu plus tard en l'étendant à l'ensemble de la société française. On a là, au fond, les prémonitions de ce que va être l'abbé Grégoire, au moins de ce point de vue. Il accentue néanmoins l'ensemble de ces textes. Et si on a le temps, regardez ce texte à la page 588. Tout de même, l'abbé Grégoire écrit ceci. « Ils pullulent et rendent partout les cultivateurs tributaires. Ce sont des plantes parasites qui rongent la substance de l'arbre auquel elles s'attachent et qui pourraient enfin l'épuiser, le détruire. »
Sans compter cette description donc tirée de Lavater, donc celui qui invente la physiognomonie en particulier. Il dit « Ils ont le visage blafard, le nez crochu, les yeux enfoncés, le menton proéminent et les muscles constricteurs de la bouche fortement prononcés. Je me félicite de voir les conséquences morales qu'il en déduit, ce Lavater, coïncider avec ce que j'ai développé dans le chapitre précédent. » Et ça, c'est dans le deuxième essai,
voilà.
Celui qui sera primé de l'abbé Grégoire, primé
par l'abbé. Mais dans le premier, il cite déjà Lavater. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les deux paragraphes, il fait presque sienne les thèses de Lavater dans le second. De même, il fait presque sienne les thèses qui acceptent l'idée que les Juifs sont responsables des meurtres rituels. Ça n'est pas prouvé qu'ils ne le sont pas. Il a des formules restrictives, alors que dans le premier, ça n'était pas du tout le cas.
Mais pourquoi ne l'a-t-on pas vu, selon vous, Pierre Birnbaum? Parce que tout compte fait, c'est aussi une pierre dans le jardin de vos confrères qui ont travaillé depuis longtemps sur cette personnalité de l'abbé Grégoire, à savoir de ne pas avoir vu cette dureté de ton, et c'est peut-être ce durcissement de ton de l'abbé Grégoire entre le premier et le deuxième essai.
Le durcissement, on ne pouvait pas le voir, puisqu'on ne connaissait pas l'existence du premier texte. Mais l'existence de ces perspectives relativement hostiles, basées sur des préjugés, était connue. Simplement, il est vrai aussi, et on a tort de ne pas le mentionner, de ne pas insister là-dessus dans notre émission, il est vrai aussi que l'abbé Grégoire a des phrases merveilleuses sur l'émancipation nécessaire de nos frères, sur le fait que les Juifs ne sont pas responsables de la pollution des eaux, ne sont pas responsables de la peste. Et c'est un homme qui, au fond, prend la défense des Juifs, mais néanmoins est porteur d'un grand nombre de préjugés.
Et puis en 1789, il fera un grand texte aussi.
Et ce qu'il faut dire, c'est que le texte de la motion sur les Juifs auquel vous vous référez est un texte éblouissant d'ouverture, d'altruisme, où tout a disparu. Il n'y a plus un seul mot sur les bêtises talmudiques, sur le caractère burlesque du Talmud, sur le fanatisme des Juifs. Il n'y a plus rien. Simplement un texte limpide disant il faut les émanciper, de même qu'il faut émanciper les Noirs. Pour les Noirs, il va falloir attendre un peu plus tard, 93. Pour les Juifs, ça sera fait en 91.
Et donc, effectivement, c'est une part d'histoire intellectuelle, mais aussi cela rentre, on pourrait dire, dans votre travail de long cours, Pierre Birnbaum. La République et le cochon se reposaient cette question-là en comparant non pas la France avec l'Angleterre ou avec les pays germaniques, mais avec les États-Unis en particulier, et la place que l'on faisait aux Juifs dans les républiques sœurs, qui étaient la République états-unienne et la République française. Et d'une certaine façon, vous l'avez dit en ouverture, on peut conclure là-dessus avec vous, vous dites aussi quelque chose de la société d'aujourd'hui en parlant de ce concours de l'Académie de Metz.
Mais c'est toute la question de la légitimité du pluralisme. Dans une France relativement ouverte aux préjugés avant la Révolution française et dans une France républicaine, universaliste, qui n'accepte pas non plus vraiment la présence de l'autre, son identité, ses appartenances, ses mémoires, et qui là aussi tente d'uniformiser, non pas à travers le catholicisme, mais à travers le rationalisme, l'espace public.
Je vous remercie beaucoup, Pierre Birnbaum, d'être venu présenter votre dernier livre. « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ?» Le concours de l'Académie de Metz en 1796, publié aux éditions du Seuil. Merci encore.
Merci.
Nous recevons maintenant notre deuxième invité de ce jour, Olivier Grenouillot. Oh, my boy, oh, my boy, oh, my boy, oh, my boy, oh, my boy.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Olivier Grenouillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour le dernier livre de ce qui peut apparaître comme une trilogie, même si vous ne l'avez pas pensé comme tel. Ça s'intitule « La révolution abolitionniste » et cela fait suite à deux ouvrages. Le premier, c'était « Les traites négrières » en 2005, un essai d'histoire globale, et « Qu'est-ce que l'esclavage ?» en 2014. Et maintenant, vous vous intéressez à la question de l'abolition. C'est publié en Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Et c'est un essai ambitieux qui résume, comme l'avaient déjà fait les précédents, tous les travaux que l'on peut lire aujourd'hui, en particulier les travaux les plus récents sur cette question de l'abolition, en faisant une histoire comparée et globale, parce que c'est votre projet depuis le départ, Olivier Grenouillot.
Oui, comparé et global, comparé, puisque sur la question, on a énormément de travaux. Il y a une sorte d'Himalaya, finalement, de travaux sur la question. Mais on a des approches souvent nationales. L'histoire, ce qui intéresse l'anglo-saxon, c'est les États-Unis et puis le Royaume-Uni. On a aussi des approches françaises, mais elles sont rarement comparées. Et puis, longue durée, puisque finalement, je m'intéresse à un phénomène qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Je le poursuis jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais ici ou là, notamment dans le premier chapitre, intitulé « Avant, ailleurs, autrement », j'essaie de voir en quoi ce mouvement est original, en le comparant à des critiques de l'esclavage ancienne jusque dans l'Antiquité.
Oui, parce que vous montrez effectivement que malgré cet Himalaya de savoir que vous venez de décrire sur cette question de l'esclavage, il y a quand même beaucoup de trous, beaucoup de méconnaissances et vous pointez du doigt dans votre ouvrage « La révolution abolitionniste » le nombre de choses que l'on ne sait pas au bout du compte.
Oui, y compris à la fin du volume, j'ai essayé de pointer du doigt ce que moi-même je perçois comme des manques importants. Le travail de l'historien n'est pas là simplement, ne vise pas à résumer ce que les autres ont fait, il vise à penser un sujet, à le reconstruire et puis aussi à indiquer, lorsque c'est le cas, les zones d'ombre.
Alors, parmi ces zones d'ombre, il y a la question des raisons de cet abolitionnisme occidental entre la fin du XVIIIe et le XIXe siècle. Et vous dites tout de suite, dès l'ouverture de votre livre, Olivier Grenouillot, combien la raison unique de ce qui s'est passé à ce moment-là vous apparaît comme faible et comme il faut, au contraire, en tant qu'historien, rechercher des causes très multiples à cette particularité de la révolution abolitionniste occidentale.
Oui, il y a un chapitre qui est consacré finalement au facteur explicatif, parce qu'on a souvent recherché le facteur ou la cause principale, la cherchant soit dans des arguments philanthropiques, soit dans des arguments plus matérialistes, soit dans l'action des esclaves eux-mêmes. Mais il semble évident qu'un phénomène si vaste, qui concerne tout le monde occidental, sur plus d'un siècle, plusieurs générations de personnes, ne peut pas s'expliquer par un seul facteur. Et donc il faut essayer de voir comment ces raisons diverses sont agencées.
Alors, en particulier, vous venez de le dire, vous ouvrez votre ouvrage, Olivier Grenouillot, en essayant de comprendre ce qu'est la spécificité occidentale, c'est du moins ce que vous montrez dans ce livre, La révolution abolitionniste, par rapport à d'autres sociétés, comme vous le disiez, ailleurs, à d'autres moments, pour réfléchir à la façon dont elles ont pensé cette question de l'esclavage et peut-être sa suppression. Et vous dites que si, par exemple, dans le domaine musulman, il y a eu des critiques récurrentes, régulières de cet esclavage, ça n'a jamais conduit à ce qui s'est passé ensuite au XVIIIe et au XIXe siècle en Europe occidentale, c'est-à-dire à l'idée de l'abolition de cet esclavage.
Oui et non. Disons que mon thème de recherche, c'est l'Occident sur plus d'un siècle. C'est tellement vaste. Je me suis pas intéressé forcément à la question dans d'autres systèmes de pensée, notamment du fait sur l'islam. Il y a le très beau livre de Roger Bott, Abolition plurielle en terre d'islam. Il faut pas oublier néanmoins que la Tunisie abolit entre guillemets, parce que c'est pas une abolition en tant que telle, mais met fin à l'esclavage en 1846, deux ans avant l'abolition française.
Eh oui.
Voilà. Mais si l'on revient finalement dans l'Antiquité, et puis pour montrer ce qui caractérise l'un des facteurs originaux de cet abolitionnisme occidental, c'est le fait que l'on ne pense plus la dissociation des droits, mais leur emboîtement. Alors, je m'explique. Dans le passé et dans l'Antiquité, beaucoup considéraient que selon le droit naturel, les hommes sont libres et égaux. Parfois aussi selon le droit divin. Mais dans le droit des gens, organisé en société, l'esclavage était accepté. Et finalement, ça ne choquait pas grand monde, puisqu'on pensait que ces différents droits étaient dissociés. Avec les abolitionnistes à la fin du XVIIIe siècle, il y a un changement total. On met en avant d'abord des valeurs considérées comme étant universelles, comme la naturalité et la liberté. Et on considère que ces valeurs universelles doivent être à la source du droit des gens. Le droit des gens doit être constitué à partir de ces valeurs-là. Et à partir de ce moment, les différents droits, divins, naturels ou droits des gens, sont considérés comme devant s'emboîter. Et là, il y a une grande différence.
Alors, vous mettez en avant, y compris d'ailleurs en islam, la question du rôle de l'État ou du prince, parce qu'il y a des endroits où l'État est assimilé au prince qu'il gouverne d'une certaine façon, qui, selon vous, Olivier Grenouillot, a toujours été mis un peu à l'écart, n'a pas été véritablement pensé comme étant essentiel. Et vous dites, si, quand on réfléchit à cette question de la révolution abolitionniste, il faut toujours penser à la place de celui qui incarne l'État ou de l'État soi-même pour comprendre pourquoi cette révolution ou ces révolutions abolitionnistes ont pu avoir lieu.
Oui, disons que parmi les acteurs nombreux de ce processus, il y a aussi l'État, il y a aussi des juges, des hommes de loi. Hein. L'État, dans le monde musulman, comme l'a écrit Roger Bott, puisqu'on ne peut pas abolir officiellement quelque chose qui est permis par les textes religieux, il y a des solutions de contournement. Et c'est lorsque finalement le pouvoir, le prince est favorable et qu'il a des appuis religieux, qu'il peut conduire à des formes d'extinction de l'esclavage sans que ce soit finalement une abolition officielle. Mais il n'y a pas originalité finalement, puisque on trouve le rôle important de l'État également dans le monde occidental. Le servage, ce n'est pas l'esclavage, mais est aboli finalement en Russie en 1861, sans qu'il y ait un mouvement abolitionniste puissant, c'est l'État qui est à la manœuvre. Aux Pays-Bas, au 19e siècle, il y a quelques abolitionnistes organisés provisoirement et de manière éphémère en mouvement, mais c'est l'État là aussi, pour des raisons pragmatiques, comme pour les Danois, qui est à la manœuvre. Donc ici ou là, on a parfois des États qui agissent, parfois ce sont des individus organisés en société, en lobbies, en ONG, on dirait aujourd'hui. Et donc on a une diversité d'acteurs dans ce processus.
Et donc cette diversité d'acteurs, c'est ce que vous montrez dans votre livre sur la révolution abolitionniste, Olivier Grenouillot, cette diversité d'acteurs fait qu'effectivement les situations ne sont jamais les mêmes. Et vous insistez beaucoup sur ces fluctuations dans le temps, fluctuations dans l'espace, fluctuations des acteurs qui prennent parfois le premier rôle et qui parfois retournent au second rôle ou au troisième plan.
Oui, tout à fait. À la fois fluctuation, et là il faut aussi bien comprendre que finalement l'abolitionnisme, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
On peut avoir des retours en arrière, par
oui,
exemple.
Oui, tout à fait. En France, on abolit l'esclavage en 1794, rétabli en 1802. Voilà. Mais aujourd'hui, puisque évidemment tout le monde, heureusement, condamne l'esclavage aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité, on a tendance à penser que c'était naturel auparavant. Il faut bien comprendre que lorsque quelques personnes, quelques individus, à la fin du XVIIIe siècle, commencent à avoir l'idée d'abolir l'esclavage, et pas simplement de le réformer, de l'abolir, c'est au moment où le système esclavagiste américain est à son apogée. C'est l'époque où la traite par l'Atlantique déporte de plus en plus d'Africains, où les productions coloniales sont de plus en plus nombreuses, diversifiées, et où le racisme qui est développé aux Amériques se diffuse en Europe. Donc ce mouvement n'allait pas de soi, il allait à contre-courant de forces très puissantes.
Alors, vous insistez beaucoup aussi sur un fait qu'il faut peut-être préciser, la critique de l'esclavage ne conduit pas forcément à une action contre l'esclavage. Et vous réitérez plusieurs fois dans votre ouvrage, Olivier Grenouillot, paru chez Gallimard, vous réitérez plusieurs fois cette idée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui mettent en œuvre une critique même très précoce de ces questions. Jean Bonnin, vous le citez par exemple pour la période de la Renaissance en France, ou d'autres qui mettent en œuvre une critique de ce qu'est l'esclavage sans pour autant déclencher un mouvement social ou déclencher une action politique qui conduirait à l'abolition de l'esclavage, Olivier Grenouillot.
Oui, même dans l'Antiquité, les Esséniens, une secte juive, ou les thérapeutes, une communauté près du lac Maréotis, au sud d'Alexandrie, s'interdisent la possession d'esclaves, mais ne pensent nullement la faire interdire aux autres. Montesquieu sape les bases, je dirais, morales, idéologiques et autres de l'esclavage, mais à mon sens, n'est pas un abolitionniste. Il n'entreprend pas une action en faveur de l'abolition. Et là, on arrive finalement à un autre facteur original. Parmi les facteurs de cristallisation de l'abolitionnisme, on a ce que j'appelle l'émergence de l'individu acteur qui agit sur le monde pour, comme on dirait à l'époque révolutionnaire, le régénérer. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de penser qu'une chose est mal, mais on veut ici, dans le monde, et non pas en attendant un éventuel jugement divin, on souhaite travailler, œuvrer pour rendre le monde plus proche de nos valeurs.
Oui, et c'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire, vous dites, par exemple, à propos de Montesquieu, vous dites effectivement, il critique très sévèrement l'esclavage, dans l'Esprit des Lois en particulier, mais il n'est pas celui qui va déclencher la machine. Ceux qui vont déclencher la machine sont ceux qui, alors pour des raisons qui sont à la fois chrétiennes, par exemple pour l'abbé Grégoire, mais aussi de mélange entre son engagement chrétien et l'esprit des Lumières, vont vouloir régénérer la société. Et donc ceux-là, ce sont ceux qui vont mettre en œuvre justement ce que vous appelez l'émergence de l'individu acteur qui va agir sur la société pour faire à la suite, disparaître l'esclavage de cette société.
Oui. Alors, oui, deux choses. L'individu acteur, ça peut paraître peut-être abstrait. Un exemple pour incarner cela. 1698, Germain Fromageau, directeur des quatre consciences à Sorbonne. On lui demande si on peut faire la traite en conscience. Il lui faut des pages et des pages pour avoir une réponse
très nuancée.
Et sa réponse n'est pas sa réponse à lui. Il se fonde sur l'Ancien Testament, le Nouveau, les Pères de l'Église, les exemples de l'Antiquité romaine, grecque, etc. Voilà. Bon, un siècle plus tard, il y a un pasteur qui s'adresse à Londres à ses fidèles et qui leur dit vous, en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant que Britannique qui est pris de liberté, vous ne pouvez pas accepter la traite d'esclavage, sinon vous allez brûler en enfer. Dans le second cas, on s'adresse à des individus et on s'adresse à leur conscience. On agit en conscience par rapport à son expérience personnelle et non pas par rapport à une tradition. Ça, c'était un grand changement.
Oui, et vous expliquez effectivement que ce XVIIIe siècle, quand il pense peut-être possible une abolition de l'esclavage, qui va intervenir à la toute fin de ce siècle pendant la Révolution française pour la France, quand il pense à cette abolition de l'esclavage, le XVIIIe siècle a deux sources, dites-vous. Il y a une source qui est une source philosophique, les fameux philosophes des Lumières, dont on parle pendant cette semaine de la Fabrique de l'Histoire, et il y a une source chrétienne, et cette source chrétienne est souvent marquée par ce qu'on appelle le réveil. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle le réveil, justement, quand on s'intéresse à la question chrétienne, et en quoi ces mouvements de réveil ont pu générer, justement, une pensée sur l'abolition possible de l'esclavage, Olivier Grenouillot.
Alors, le réveil est notamment sensible chez les Quakers. Les Quakers aux Amériques et en Angleterre, et puis aux évangéliques en Europe. Le réveil, c'est cette volonté d'une sorte d'un retour aux sources, d'une analyse personnelle des textes, afin
une finalement... régénération, là aussi.
Une régénération, afin de se purifier. Et c'est ce qui fait que les Quakers sont différents des Esséniens. Les Esséniens s'interdisent à l'esclavage, les Quakers se l'interdisent, mais veulent le faire interdire aux autres. Et vous aviez également tout à fait raison d'indiquer qu'il y a ces deux grandes sources. Il y a une source à la fois, je dirais, une morale, parce que c'est cela, une morale finalement profane, philosophique, républicaine à certaines époques, et puis une morale aussi religieuse, qui peut être protestante et qui est parfois aussi catholique. Et on a souvent tendance à opposer ces deux mouvements, la raison d'un côté, la foi de l'autre. Il est vrai qu'au XVIIIe, au XIXe siècle, les adeptes de ces deux mouvements sont parfois affrontés violemment. Mmh. Mais en matière d'abolition, finalement, ces deux forces sont coagulées et ont renforcé un petit peu, finalement, la force du mouvement.
On a l'impression, en vous lisant, que vous faites la part la plus égale possible, selon vous, entre tous ces arguments, d'une certaine façon. Vous mettez à disposition du lecteur ceux qui pensent qu'il y a une sorte d'exceptionnalité anglo-saxonne et que cette exceptionnalité anglo-saxonne serait liée, par exemple, à la question religieuse. Vous contrebattez cette proposition en disant qu'il y a peut-être d'autres sources, par exemple. Et vous mettez comme ça, vous essayez de tenir la part égale entre toutes ces interprétations qui sont multiples. Par exemple, vous vous posez la question de la République. Effectivement, en France, dites-vous, eh bien, la question républicaine correspond à la question des abolitions de l'esclavage. En tout cas, ça correspond pendant la Révolution française, 1794, et ça correspond pendant la Deuxième République, 1848, avec Victor Schœlcher et tous ceux qui ont porté ce mouvement d'abolition. Mais vous dites, la République, elle s'en tire à bon compte dans cette histoire, parce que il n'y a pas que des républicains qui ont porté ces idées, et ces idées sont peut-être nées justement avant même l'arrivée de la République, Olivier Grenouillot.
Oui, tout à fait, vous avez tout dit. Hein. C'est un mouvement sur la longue durée, donc les arguments qui permettent l'abolition n'ont pas toujours été finalement élaborés en période de République. Il n'y a pas un régime plus que d'autres qui ont joué un rôle dans l'affaire. Ce sont des hommes dans des contextes différents, sous des régimes politiques différents. Mais partout néanmoins, l'abolition est liée à un contexte de modernisation, de réforme politique, sociale, économique, culturelle. Ça, c'est très, très important.
Et puis, vous vous posez la question de ce lien complexe qu'il peut y avoir entre l'abolition de l'esclavage et la naissance d'un empire colonial. Vous vous dites, tout compte fait, il y a concomitance de temps. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une liaison de cause à effet ? Vous nuancez cette possibilité-là, mais vous y réfléchissez, Olivier Grenouillot, en disant qu'effectivement, eh bien, par exemple, là où on abolit l'esclavage, on n'abolit pas forcément le travail forcé. Et le travail forcé est-il vraiment différent de l'esclavage ? C'est une question qu'on peut se poser, Olivier Grenouillot.
Oui, on n'abolit pas forcément le travail forcé. Et puis, les abolitionnistes ne sont pas forcément contre la colonisation. En fait, on a affaire à quelque chose de très complexe. Et pour comprendre justement cela, il faut à la fois avoir une méthode globale et comparée sur la durée. Il faut éviter finalement la petite phrase extraite d'un corpus. Hein. C'est pourquoi je me fonde sur des travaux où finalement on a analysé tout un corpus, tous les textes parlementaires français et anglais, ou bien lorsque moi-même j'ai analysé tous les textes d'un même auteur. Et donc, à partir de corpus, essayer de voir finalement par une méthode compréhensive, comme le prenait Max Weber, essayer de comprendre comment les acteurs du passé percevaient les choses, que l'on soit aujourd'hui d'accord avec eux ou non, comment ils percevaient les choses. Et pour bien comprendre cela, pour bien discerner, parce que c'est pas simple, dans le discours abolitionniste, et ce qui finalement renvoie au cœur de doctrine, et ce qui renvoie à des arguments plus tactiques, il faut analyser le discours abolitionniste en le comparant au discours des défenseurs de l'esclavage, puisque deux discours se construisent l'un par rapport à l'autre, l'un pour répondre à l'autre. Et je reviens à votre question, justement. L'un des arguments massus des défenseurs de l'esclavage, c'est « si on met fin à l'esclavage, les colonies sont ruinées, et les métropoles européennes également. Mmh. » Et donc les abolitionnistes, pour répondre à ce discours-là, et pour convaincre leurs concitoyens, doivent ajouter au juste, qui est le cœur de doctrine des abolitionnistes, ce que j'appelle l'utile. Et notamment, ils essaient de dire que la traite et l'esclavage pourraient être remplacés par un commerce qu'ils appellent légitime avec l'Afrique. Mmh. Et songer des marchandises européennes, américaines, contre des marchandises produites en Afrique par des Africains libres. Et l'expression, d'ailleurs, commerce légitime, renvoie bien à cette dualité à la fois économique et morale chez les abolitionnistes. Donc ils ne sont pas forcément contre l'idée d'une colonisation, sans y pousser avant la fin du XIXe siècle, mais à un moment où finalement le phénomène est déjà enclenché.
On imagine effectivement combien votre livre va être lu de façon très précise par tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, peut-être même parfois critiquée par certains, parce que, comme je le disais, vous faites la part égale. Vous dites, par exemple, que depuis quelque temps, on a tendance à insister, après avoir insisté sur l'idée d'un esclave docile, on a tendance à insister sur l'idée des révoltes d'esclaves qui auraient montré, au bout du compte, combien cet esclavage était insupportable, ce qu'il était, pour tous ceux qui le subissaient. Et vous dites, en fait, nous vivons dans des périodes intellectuelles, des modes, des sortes de modes intellectuels qui passent d'un gradient à un autre en ne réfléchissant pas à des possibilités, justement, de mêler les interprétations entre elles. Ce que vous dites, c'est qu'il faut s'interroger, c'est sûr, sur le rôle des anciens esclaves affranchis dans les opinions publiques, en particulier aux États-Unis, la façon dont ils ont mis en œuvre, pourrait-on dire, un discours contre l'esclavage, mais qu'il n'y a pas eu tout le temps des révoltes d'esclaves, comme à Saint-Domingue. Et là, c'est un cas exceptionnel, dites-vous, Olivier Grenouillot.
Oui, Saint-Domingue, c'est une révolte qui se termine en révolution, hein, puisque les esclaves se libèrent eux-mêmes. Mais c'est un événement quasi unique dans l'histoire de l'humanité. Sur la question des esclaves, c'est vrai, pendant très longtemps, on a eu le mythe de l'esclave docile. J'insiste beaucoup sur l'idée de résistance des esclaves. Ils ont résisté à toutes les époques, dans tous les systèmes esclavagistes. Et je m'oppose d'ailleurs à la différenciation faite parfois entre formes de résistance dites actives et passives. Active, ça serait violente et collective, et passive, individuelle et moins violente. Pour moi, toute forme de résistance esclavage doit être valorisée. Et j'introduis même dans la notion de résistance esclavage des choses qui n'y sont pas forcément toujours présentes.
Lesquelles ?
L'affranchissement. Oui. L'affranchissement est souvent perçu comme le résultat de la bonne volonté du maître. Pour des raisons philanthropiques ou religieuses, on affranchit un esclave. Mais on n'affranchit jamais n'importe quel esclave. Et donc, dans le processus d'affranchissement, le travail, l'action de l'esclave joue un rôle. Et donc, les formes de résistance sont importantes et plus importantes même qu'on l'imagine. Maintenant, la résistance ne veut pas dire toujours abolition. Beaucoup d'esclaves, avant que l'idée même d'abolition soit pensée, voulaient essayer de s'échapper eux-mêmes individuellement de l'esclavage, sans penser libérer les autres esclaves. Et finalement, ça... À une époque, encore une fois, on ne pense pas même l'idée d'abolition, ça paraît normal. Et donc, résistance n'est pas forcément synonyme d'abolition. Maintenant, troisième point, vous voyez, c'est pas d'une histoire à part égale, d'un juste milieu, faire plaisir à partir aux uns aux autres, c'est une réflexion d'historien. Hein. Et troisième point, on a affaire à des connexions entre... insuffisamment étudié entre la résistance des esclaves et le mouvement abolitionniste occidental. Parfois, certains événements comme Saint-Domingue ont ralenti les mouvements abolitionnistes parce que c'est la terreur, la peur dans les assemblées. Lorsqu'on parle de Saint-Domingue, tout le monde se tait, etc. Ça fournit un argument aux défenseurs de l'esclavage en disant « Voilà, vous, abolitionnistes incendiaires, voilà ce que vous avez créé. » Inversement, on a des anciens esclaves qui ont écrit leurs mémoires, qui ont milité dans les rangs des abolitionnistes et qui ont joué un rôle important dans ce mouvement-là. Mais les connexions sont encore insuffisamment étudiées. On se focalise souvent sur de grandes figures, mais il y a la masse des individus encore anonymes et de leur rôle en tant qu'esclaves, anciens esclaves, dans le mouvement abolitionniste.
Et donc, dans cette quête, pourrait-on dire, de la nuance, parce que c'est quand même ce qui caractérise votre travail, Olivier Grenouillot, se renvoie parfois, on vous le dira peut-être, dos à dos de thèses qui sont plus marquées que les vôtres, d'une certaine façon. Vous montrez bien combien il est difficile, quand on est installé dans un milieu, et en particulier dans un pays, de s'en extraire et vous montrer combien l'historiographie, par exemple, sur la Grande-Bretagne ou l'historiographie sur les États-Unis et l'abolition, eh bien, se démène assez mal, par exemple, du fait que la plupart des grands-pères fondateurs des États-Unis sont issus de Virginie, qu'ils sont eux-mêmes héritiers de propriétés esclavagistes et qu'ils doivent jouer entre leur idéal de liberté. Vous parlez de la déclaration du 4 juillet 1776 et de l'autre côté, effectivement, du fait qu'il faut s'accommoder peut-être de la présence de ces esclaves et qu'il va y avoir une sorte de marche un peu désordonnée vers la fin de l'esclavage, presque un siècle plus tard.
Oui, ça renvoie notamment à l'idée également centrale que l'abolitionnisme est un radical réformisme. Radical parce que c'est une révolution, une histoire de la pensée.
Dans l'idée.
Dans l'idée, hein. Jamais, encore une fois, auparavant, il y a des critiques de l'esclavage très anciennes. On sait que Aristote, quand il définit l'idée de la naturalité de l'esclavage, entre guillemets, il répond déjà à un critique dont on ne connaît pas l'identité, hein. Donc les critiques sont très anciennes. Mais penser qu'on peut abolir l'esclavage en tant que système, c'est vraiment nouveau. Donc on a affaire à quelque chose de radical. Par contre, la méthode choisie, volontairement par les abolitionnistes, est celle du réformisme, de réforme progressive, graduelle, de compromis, que l'on peut critiquer parce que cela a conduit à faire durer le processus, mais dont les contemporains étaient convaincus. Schœlcher, à la fin des années 1830, Schœlcher pense qu'il faut encore attendre peut-être 40 ans pour abolir l'esclavage en France. Il ne se convertit à l'immédiatisme qu'après. Et donc on a affaire à un radical réformisme.
Eh bien voilà, on s'arrêtera avec vous sur ce terme qui, je pense, vous plaît bien, radical réformisme, parce que vous le répétez plusieurs fois dans votre ouvrage, Olivier Grenouillot, un ouvrage qui s'intitule « La révolution abolitionniste » que vous publiez dans la Bibliothèque des Histoires, comme les deux précédents. Donc le précédent, c'était « Qu'est-ce que l'esclavage ?» et celui de 2005, c'était « Les traites négrières, essai d'histoire globale, la révolution abolitionniste » donc chez Gallimard, NRF. Merci beaucoup, Olivier Grenouillot.
Merci.
Merci donc à nos deux invités du jour, Pierre Birnbaum et Olivier Grenouillot, de nous avoir parlé de ces questions d'émancipation à l'époque des Lumières. Cette émission, comme toutes les autres, était préparée par Aurélie Marcet. Et Alexandre Dang nous a accompagnés à la technique et Renaud Dalma à la réalisation. Demain, nous terminons cette série sur les Lumières en nous intéressant à la place de l'animal au siècle des Lumières avec deux invités.